Lousteau sortit, laissant Lucien abasourdi, perdu dans un abîme de pensées, volant au-dessus du monde comme il est. Après avoir vu aux galeries de bois les ficelles de la librairie et la cuisine de la gloire, après s'être promené dans les coulisses du théâtre, le poète apercevait l'envers des consciences, le jeu des rouages de la vie parisienne, le mécanisme de toute chose. Il avait envié le bonheur de Lousteau en admirant Florine en scène. Déjà, pendant quelques instants, il avait oublié Matifat. Il demeura là durant un temps inappréciable, peut-être 5 minutes, ce fut une éternité. Des pensées ardentes enflammaient son âme comme ses sens étaient embrasés par le spectacle de ces actrices aux yeux lascifs et relevés par le rouge, à gorge étincelante, vêtue de basquines voluptueuses à plis licencieux, à jupes courtes, montrant leurs jambes en bas rouges à coins verts, chaussées de manière à mettre un parterre en émoi. Deux corruptions marchaient sur deux lignes parallèles. Comme deux nappes qui, dans une inondation, veulent se rejoindre. Elle dévorait le poète accoudé dans le coin de la loge, le bras sur le velours rouge de la pluie, la main pendante, les yeux fixés sur la toile et d'autant plus accessibles aux enchantements de cette vie mélangée d'éclairs et de nuages, qu'elle brillait comme un feu d'artifice après la nuit profonde de sa vie, travailleuse, obscure, monotone. Tout à coup, la lumière amoureuse d'un œil ruissela sur les yeux inattentifs de Lucien, en trouant le rideau du théâtre. Le poète, réveillé de son engourdissement, reconnut l'œil de Coralie qui le brûlait. Il baissa la tête et regarda Camusot qui rentrait alors dans la loge en face. Cet amateur était un beau, gros et gras marchand de soirée de la rue des Bourdonnais, juge au tribunal de commerce, père de 4 enfants, marié pour la seconde fois à une épouse légitime, riche de 80 000 livres de rente, mais âgé de 56 ans. Ayant comme un bonnet de cheveux gris sur la tête, l'air papelard d'un homme qui jouissait de son reste et qui ne voulait pas quitter la vie sans son compte de bonne joie. Cet amateur était un bon, gros et gras marchand de soirée de la rue des Bourdonnais, juge au tribunal de commerce, père de 4 enfants, marié pour la seconde fois à une épouse légitime, riche de 80 000 livres de rente, mais âgé de 56 ans, ayant comme un bonnet de cheveux gris sur la tête, l'air papelard d'un homme qui jouissait de son reste et qui ne voulait pas quitter la vie sans son compte de bonne joie après avoir avalé les 1001 couleuvres du commerce. Il y avait sur ce front couleur beurre frais, sur ses joues monastiques et fleuries, tout l'épanouissement d'une jubilation superlative. Camusot était sans sa femme et entendait applaudir Coralie à tout rompre. Coralie était toutes les vanités réunies de ce riche bourgeois. Il tranchait chez elle du grand seigneur d'autrefois. Il se croyait là de moitié dans son succès, et il le croyait d'autant mieux qu'il l'avait soldé. Cette conduite était sanctionnée par la présence du beau-père de Camusot, un petit vieux à cheveux poudrés, aux yeux égrillards et très digne. Les répugnances de Lucien se réveillèrent. Il se souvint de l'amour pur, exalté qu'il avait ressenti pendant 1 an pour Madame de Bargeton. Aussitôt, l'amour des poètes déplia ses ailes blanches. 1000 souvenirs environnèrent de leur horizon bleuâtre le grand homme d'Angoulême qui retomba dans la rêverie. La toile se leva. Coralie et Florine étaient en scène. « Ma chère, il pense à toi comme au grand Turc, » dit Florine à voix basse pendant que Coralie débitait une réplique. Lucien ne put s'empêcher de rire et regarda Coralie. Cette femme, une des plus charmantes et des plus délicieuses actrices de Paris, la rivale de Madame Perrin et de Mademoiselle Fleurier auxquelles elle ressemblait et dont le sort devait être le sien, était le type des filles qui exerce à volonté la fascination sur les hommes. Coralie montrait une sublime figure hébraïque, ce long visage ovale d'un ton d'ivoire blond, à bouche rouge comme une grenade, à menton fin comme le bord d'une coupe. Sous les paupières chaudes et comme brûlées par une prunelle de jet, sous des cils recourbés, on devinait un regard languissant où scintillaient à propos les ardeurs du désert. Ses yeux étaient entourés d'un cercle olivâtre et surmontés de sourcils arqués et fournis. Sur un front brun, couronné de 2 bandeaux d'ébène où brillaient alors les lumières comme sur du vernis, siégeait une magnificence de pensée qui aurait pu faire croire à du génie. Mais Coralie, semblable à beaucoup d'actrices, était sans esprit malgré son nez ironique et fin, sans instruction malgré son expérience. Elle n'avait que l'esprit des sens et la bonté des femmes amoureuses. Pouvait-on d'ailleurs s'occuper du moral? Quand elle éblouissait le regard avec ses bras ronds et polis, ses doigts tournés en fuseau, ses épaules dorées avec la gorge chantée par le cantique des cantiques, avec un col mobile et recourbé, avec des jambes d'une élégance adorable et chaussées en soie rouge. Ces beautés d'une poésie vraiment orientale étaient encore mises en relief par le costume espagnol convenu dans nos théâtres. Coralie faisait la joie de la salle, où tous les yeux serraient sa taille bien prise dans sa basquine et flattaient sa croupe andalouse qui imprimait les torsions lascives à la jupe. Il y eut un moment où Lucien, En voyant cette créature jouant pour lui seul, se souciant de Camusot autant que le gamin du paradis se soucie de la pelure d'une pomme, mit l'amour sensuel au-dessus de l'amour pur, la jouissance au-dessus du désir, et le démon de la luxure lui souffla d'atroces pensées. J'ignore tout de l'amour qui se roule dans la bonne chair, dans le vin, dans les joies de la matière, se dit-il. J'ai plus encore vécu par la pensée que par le fait. Un homme qui veut tout peindre doit tout connaître. Voici mon premier souper fastueux, ma première orgie avec un monde étrange. Pourquoi ne goûterais-je pas une fois ces délices si célèbres où se ruaient les grands seigneurs du dernier siècle en vivant avec des impurs? Quand ce ne serait que pour les transporter dans les belles régions de l'amour vrai, ne faut-il pas apprendre les joies, les perfections, les transports, les ressources, les finesses de l'amour des courtisanes et des actrices? N'est-ce pas après tout la poésie des sens? Il y a 2 mois, ces femmes me semblaient des divinités gardées par des dragons inabordables. En voilà une dont la beauté surpasse celle de Florine que j'enviais à Lousteau. Pourquoi ne pas profiter de sa fantaisie quand les plus grands seigneurs achètent de leurs plus riches trésors une nuit à ces femmes-là? Les ambassadeurs, quand ils mettent le pied dans ces gouffres, ne se soucient ni de la veille, ni du lendemain. Je serais un niais d'avoir plus de délicatesse que les princes, surtout quand je n'aime encore personne. Lucien ne pensait plus à Camusot. Après avoir manifesté à Lousteau le plus profond dégoût pour le plus odieux partage, il tombait dans cette fosse. Il nageait dans un désir entraîné par le jésuitisme de la passion. « Coralie est folle de vous, » lui dit Lousteau en entrant. « Votre beauté, digne des plus illustres marbres de la Grèce, fait un ravage inouï dans les coulisses. Vous êtes heureux, mon cher. » À 18 ans, Coralie pourra dans quelques jours avoir 30 000 francs par an pour sa beauté. Elle est encore très sage. Vendue par sa mère il y a 3 ans, 60 000 francs, elle n'a encore eu que des chagrins et cherche le bonheur. Elle est entrée au théâtre par désespoir. Elle avait en horreur de Marsay, son premier acquéreur. Et au sortir de la galère, car elle a été bientôt lâchée par le roi de nos dandies, elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle n'aime guère. Mais il est comme un père pour elle. Elle le souffre et se laisse aimer. Elle a refusé déjà les plus riches propositions et se tient à Camusot qui ne la tourmente pas. Vous êtes donc son premier amour. Oh, elle a reçu comme un coup de pistolet dans le cœur en vous voyant. Et Florine est allée la raisonner dans sa loge où elle pleure de votre froideur. La pièce va tomber. Coralie ne sait plus son rôle. Et adieu l'engagement au gymnase que Camusot lui préparait. Bah, pauvre fille, dit Lucien dont toutes les vanités furent caressées par ces paroles et qui se sentit le cœur gonflé d'amour-propre. Il m'arrive, mon cher, dans une soirée plus d'événements que dans les 18 premières années de ma vie. Et Lucien raconta ses amours avec Madame de Bargeton et sa haine contre le baron Châtelet. Tiens, le journal manque de bêtes noires, nous allons l'empoigner. Ce baron est un beau de l'Empire, il est ministériel, il nous va, je l'ai vu souvent à l'opéra. J'aperçois d'ici votre grande dame, elle est souvent dans la loge de la marquise d'Espard. Le baron fait la cour à votre ex-maîtresse, un os de sèche. Attendez. Finot vient de m'envoyer un express me dire que le journal est sans copie. Un tour que lui joue un de nos rédacteurs, un drôle, le petit Hector Merlin à qui il en a retranché ses blancs. Finot, au désespoir, broche un article contre les danseuses et l'opéra. Eh bien mon cher, faites l'article sur cette pièce, écoutez-la, pensez-y. Moi, je vais aller dans le cabinet du directeur, méditer 3 colonnes sur votre homme et sur votre belle dédaigneuse qui ne seront pas à la noce demain. Voilà donc où et comment se fait le journal, dit Lucien. Toujours comme ça, répondit Lousteau. Depuis 10 mois que j'y suis, le journal est toujours sans copie à 8 heures du soir. On nomme en argot typographique copie le manuscrit à composer, sans doute parce que les auteurs sont censés n'envoyer que la copie de leur œuvre. Peut-être aussi est-ce une ironique traduction du mot latin copia, abondance, car la copie manque toujours. Le grand projet qui ne se réalisera jamais est d'avoir quelques numéros d'avance, reprit Lousteau. Voilà 10 heures et il n'y a pas une ligne. Je vais dire à Vernou et à Nathan, pour finir brillamment le numéro, de nous prêter 20 d'épigrammes sur les députés, sur le chancelier Crusoé, sur les ministres et sur nos amis au besoin. Dans ce cas-là, on massacrerait son père. On est comme un corsaire qui charge ses canons avec les écus de sa prise pour ne pas mourir. Soyez spirituel dans votre article, et vous aurez fait un grand pas dans l'esprit de Finot. Il est reconnaissant par calcul. C'est la meilleure et la plus solide des reconnaissances, après, toutefois, celle du monde piété. Quels hommes sont donc les journalistes ? S'écria Lucien. Comment, il faut se mettre à une table et avoir de l'esprit ? Absolument, comme on allume un quinquet, jusqu'à ce que lui manque. Au moment où Lousteau ouvrait la porte de la loge, le directeur et Dubruel entrèrent. « Monsieur, dit l'auteur de la pièce, laissez-moi dire de votre part à Coralie que vous vous en irez avec elle après souper, ou ma pièce va tomber. La pauvre fille ne sait plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait. Elle va pleurer quand il faudra rire, et rire quand il faudra pleurer. On a déjà sifflé. Vous pouvez encore sauver la pièce. Ce n'est pourtant pas un malheur que le plaisir qui vous attend. Monsieur, je n'ai pas l'habitude d'avoir des rivaux, dit Lucien. Ne lui dites pas cela, s'écria le directeur en regardant l'auteur. Coralie est fille à jeter Camusot par la fenêtre, à le mettre à la porte, et se ruinerait très bien. Ce digne propriétaire du Cocon d'Or donne à Coralie 2 000 francs par mois, paye tous ses costumes et ses claqueurs. Comme votre promesse ne m'engage à rien, sauvez votre pièce, dit sultanesquement Lucien. Mais n'ayez pas l'air de la rebuter, cette charmante fille, dit le suppliant du Bruel. Allons, il faut que j'écrive l'article sur votre pièce et que je sourie à votre jeune première. Soit, s'écria le poète. L'auteur disparut, après avoir fait un signe à Coralie qui joua dès lors merveilleusement et fit réussir la pièce. Bouffet, qui remplissait le rôle d'un vieil alcane dans lequel il révéla pour la première fois son talent pour se grimer en vieillard, vint au milieu d'un tonnerre d'applaudissements dire « Messieurs, la pièce que nous avons eu l'honneur de représenter est de messieurs Raoul et Dubruel. » « Tiens, Nathan est de la pièce, » dit Lousteau. « Je ne m'étonne plus de l'intérêt qu'il y prend, ni de sa présence. « Coralie, Coralie !» s'écria le parterre soulevé. De la loge où étaient les deux négociants, il partit une voix de tonnerre qui cria « Et Florine !»« Florine et Coralie !» répétèrent alors quelques voix.